Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette première table ronde après l'introduction de Roland Lehoucq pour cette nouvelle édition des Utopiales. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Alain Chédotal. Donc Alain Chédotal est directeur de recherche à l'INSERM, responsable d'une équipe de l'Institut de Vision à Paris. INSERM CNRS et Sorbonne Université. Alain Chédotal est originaire de Nantes, où il est né, et a effectué son éducation au lycée Clémenceau à Nantes. Après des études à l'École normale supérieure de Lyon et un stage à l'Institut neurologique de Montréal, il a obtenu en 1995 une thèse en sciences dirigée par le docteur Constantino Sotelo à l'Université Pierre-et-Marie Curie à Paris. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral dans le laboratoire du professeur Cole Goodman à l'Université de Californie à Berkeley, avant d'être recruté à l'INSERM en 1997, où il a rejoint ensuite l'Institut de la Vision en 2008. Donc depuis plus de 20 ans, Alain Chédotal étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires qui contrôlent le développement des connexions neuronales, en particulier celles qui connectent les moitiés droite et gauche du cerveau. Il cherche ainsi à comprendre comment un neurone arrive à trouver ses cibles parmi des milliards de neurones présents dans le cerveau. Et on sait maintenant que des signaux appelés molécules de guidage axonal sont présents dans le cerveau embryonnaire et orientent la croissance des axones. Il a participé à la caractérisation et à l'étude des fonctions de plusieurs récepteurs de molécules de guidage axonal, tels que la neuropiline 2, la néogénine ou les récepteurs roundabout. Alain Chédotal a été le récipient de plusieurs distinctions et prix, dont le lauréat de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche en 2002. Il a été élu membre de l'Académie Européa en 2015 et membre de l'Académie des Sciences en 2017. Il est aussi membre de l'European Dana Alliance for Brain Initiatives depuis 2016. Et enfin, il a reçu le prix INSERM Recherche en 2017. Donc, Alain Chédotal aujourd'hui va nous parler de la cartographie de l'embryon. Donc, en fait, à travers le corps, non pas le corps organique comme on le connaît, et son développement à travers l'embryon, et notamment les outils mis en place pour étudier cet embryon. Donc, on va commencer avec la fascination qu'a l'humanité dans ses premières étapes de la vie, qui est le développement embryonnaire, et comment a été perçu cet état particulier par l'imaginaire de l'humanité et les scientifiques en particulier.
Okay, donc d'abord, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Et donc on va pouvoir faire quelque chose de très interactif, mais quand même, on va garder pas mal de temps à la fin pour des questions, si vous en avez, sur diverses et variées, soit technologiques, soit éthiques, soit ce qui vous intéresse sur l'embryon humain. Et donc, le but, un peu, c'est de vous expliquer un peu comment on en est arrivé, nous, dans le laboratoire, à étudier l'embryon humain, et un peu, je vais vous faire un peu progressivement un historique de ce qu'on connaît de l'histoire de l'embryon. Donc, comment, ça, c'est une image qu'on a fait au laboratoire des muscles dans un embryon humain. Et je vais vous expliquer comment on peut générer ce genre d'image-là actuellement et le type d'approche qu'on fait pour arriver à ces images-là. Voilà. Donc ça, je vous ai mis, ça c'est une image assez classique. Si vous êtes dans les musées, vous en voyez beaucoup comme ça, ce qu'on appelle de visitation. Et c'est à peu près pendant des siècles et des siècles le genre d'image qui était disponible pour le grand public sur ce que c'est qu'un embryon. Donc il y avait très peu de connaissances sur l'embryon. Les Grecs s'y intéressaient pas trop. Alors il y avait les Égyptiens, les Grecs faisaient des cultures, par exemple d'œufs de poulet, s'intéressaient à ouvrir l'œuf pour voir un peu ce qui se passait dedans. Mais pour l'embryon humain, il y avait à la fois l'aspect éthique, religieux et autres qui fait qu'on n'était pas, c'était pas très étudié. Voilà. Donc il y avait ce genre d'image là, et même ça c'était trop. Donc là on est au XVe siècle, et un pape a décidé à un moment que c'était même trop. Et donc, dans les visitations plus tardives, il n'y a même plus d'image de Jésus dans Marie. On a supprimé l'image de l'embryon. Voilà. Donc, pendant vraiment très, très longtemps, c'est resté vraiment très, très mystérieux. On ne savait pas ce qui se passait. Et vous avez peut-être vu ce dessin-là de Léonard de Vinci. Donc là, on est presque 50 ans plus tard, et où il a eu accès à un fœtus qu'il a dessiné. Alors, on ne dit pas si après il a fait la dissection de ce fœtus. Il a fait simplement ce dessin-là. Et c'est encore une fois, voilà, là on est au XVIe siècle, et c'est reste encore quelque chose de très mystérieux. On ne sait pas vraiment comment l'embryon humain va se développer. Alors, Si on va un siècle plus tard, c'est encore pire. Donc là, pourtant, on est au 17e. Alors là, c'est un Hollandais qui travaillait à Paris et qui a fait ce petit dessin. Alors, on ne savait vraiment pas d'où venait l'embryon humain. Et il y avait une théorie qui existait, qui était en place, enfin, qui tournait, qu'on appelait la préexistence. Alors, dans la théorie de la préexistence, c'était soit dans l'ovocyte, donc chez la mère, soit dans les spermatozoïdes chez le père, donc là c'est un spermatozoïde. Il y avait un petit bonhomme, comme ça, qu'on voit là, qui ressemble beaucoup à celui que de Vinci a dessiné, qui est, on peut imaginer, qui est compacté dans le spermatozoïde. Il est déjà tout complètement formé, il n'y a rien de particulier, il est juste tout petit. Et puis, après la fécondation, hop, il va se développer et grandir. Donc là, dans cette idée-là, on part de quelque chose qui est déjà existant sous la forme d'un corps humain, juste plus petit, et puis ça va ensuite grandir. Donc là, on est vraiment à la fin du 17e, et on en a encore à ce genre de notion. Alors, 100 ans plus tard, on n'a pas progressé énormément. Donc si vous allez en Italie, vous allez à Florence, il y a un musée dans lequel vous pouvez voir cette planche-là, sur lequel, alors pour la première fois, ce qui est nouveau là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de retracer l'historique du développement embryonnaire. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, il y a quand même des phases différentes, ça commence à un moment, et puis il a essayé de reclasser dans le temps comment on passe du plus petit au plus grand. Mais là, comme on le voit encore sur ces images, on pense encore à ce qui se passe globalement quand vous savez toutes les étapes au cours des différents mois de la grossesse. L'embryon devient plus gros, mais encore une fois, il est formé, il a exactement toujours la même taille. Donc voilà, là on est au 19e siècle et on en est encore à ces notions-là. Donc il n'y a vraiment pas de grosses évolutions pendant des siècles et des siècles. L'aspect développement embryonnaire chez l'homme ou fœtal n'était vraiment pas du tout étudié. Ça restait mystérieux et ça n'intéressait pas beaucoup en fait, les gens. Il y avait un côté, on ne voulait pas vraiment savoir ce qui se passait. Alors, ça a changé vraiment beaucoup d'un point de vue scientifique à la fin du 19e siècle. C'est vraiment là qu'on a commencé à avoir des chercheurs qui ont voulu essayer de mieux comprendre comment l'embryon humain se développait. Et ça a été permis aussi par des développements technologiques qui ont été faits à l'époque. Et donc, il y a ce chercheur allemand, Wilhelm Ilse, qui a mis au point une technique dans laquelle vous pouvez rendre rigide des tissus biologiques, donc n'importe quel tissu biologique, un embryon par exemple, vous pouvez le solidifier avec de la paraffine. Et ce qu'il a inventé aussi, c'est une espèce de machine qu'on appelle le microtome. En gros, si vous voulez, c'est une machine à couper le jambon très précise. Donc là, les tranches, elles vont faire entre 2 microns et 10 microns. Donc vous rigidifiez le tissu, vous le mettez devant votre machine, et puis vous allez couper comme ça, en petit à petit, vous allez le déplacer dans la machine et faire des coupes de 10 microns, 10 microns, 10 microns, 10 microns. Vous les collectez sur une lame de verre, et puis vous allez faire ce qu'on appelle des colorations histologiques. Il va utiliser des colorants pour qu'on puisse visualiser les cellules. Alors, ça ne sera pas très précis. Elles seront bleues, roses. On verra le noyau dans la cellule. Mais déjà, on va pouvoir voir ce genre d'image qu'on voit en bas, au milieu. Vous avez une coupe, et puis on peut reconnaître certains organes et voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment ces travaux-là qui ont été pionniers. Là, ce qu'on voit là, ce sont des embryons humains, un embryon humain qu'avait récupéré Wilhelm Ilse. Il va le couper, il va le colorer. Et lui, il va commencer vraiment à s'intéresser à l'aspect temporel. C'est-à-dire vraiment, comment on peut retracer le début de l'embryon à la fin, juste avant la naissance. Comment on peut classer les différents embryons? C'est-à-dire qu'il récupérait des embryons ou des fœtus, mais c'était compliqué de dire quelle est la chronologie du développement. Comment on peut savoir que l'un est plus jeune ou plus vieux? Alors, on pourrait dire c'est la taille, c'est pas comme ça. Il y a des embryons qui, quand on en collecte, qui peuvent être plus gros, et pourtant ils ne sont pas forcément plus âgés. Donc la taille n'est pas un critère. Donc ils ont commencé à s'intéresser à des critères, par exemple l'apparition des paupières, la fermeture de la paupière, l'apparition des doigts. Initialement, on a des pattes palmées, on n'a pas de doigts. Et puis après, il y a des cellules qui vont mourir entre les différents doigts. Et puis petit à petit, les doigts vont émerger. Donc initialement, on a des palmes, et puis il y a une mort de cellules qui fait que les doigts vont se fusionner. Alors parfois, ça ne se passe pas. Il y a des personnes qui vont avoir les doigts qui vont rester fusionnés. Parfois, vous avez plus de doigts que normal. Et donc ça, c'est des étapes qui se passent très, très précocement. Donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, est-ce qu'on peut réussir maintenant à retracer l'historique du développement embryonnaire en utilisant des critères précis La taille, c'est une chose, mais voilà, l'apparition des membres, l'apparition des doigts, la position des membres, l'apparition de l'œil, pour un peu retracer l'historique du développement de l'embryon. Donc voilà, donc là, on commençait à rentrer dans une démarche qui était un peu plus scientifique, comprendre d'où on vient et comment on se développe et comment les différents organes apparaissent. Alors, voilà, donc ça donnait ce genre d'image-là. Donc il y a plusieurs musées dans lesquels on a des reconstitutions comme ça d'embryons humains. Mais bon, vous pourriez regarder des embryons de souris. Alors, c'est pas exactement identique, mais ça ressemble pas mal initialement au début du développement. Alors, ce genre de travaux-là de His, enfin maintenant, probablement la plupart d'entre vous ne le connaissent pas de son nom, mais il était très très populaire à l'époque. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'embryon humain. Ça s'est mis vraiment, ça a intéressé beaucoup de le grand public. Et il y avait même du coup des foires, un peu comme les Utopiales ici. Il faut imaginer au 19e siècle qu'on aurait eu là, au lieu d'avoir des Playmobil, là, on aurait eu des jars dans lesquels vous auriez eu des embryons humains à différents stades de développement. Donc là, c'est un exemple d'une foire qu'il y avait eu à Londres, dans laquelle on voit qu'on pouvait aller voir des Lilliputiens aztèques, tout un tas de choses, incluant aussi des spécimens d'embryons humains. C'est vraiment quelque chose qui intéressait beaucoup les gens. Il y en avait aux États-Unis, il y avait en France. Il y avait comme ça beaucoup de musées et de foires itinérantes dans lesquelles on présentait des embryons, soit normaux, soit anormaux. Ça a vraiment été quelque chose qui a commencé à intéresser beaucoup le grand public pour des raisons assez évidentes. Alors, une autre étape très importante pour ce qu'on connaît de l'embryon humain, et ça c'est vraiment important, c'est des travaux qui ont été réalisés aux États-Unis par un groupe de chercheurs à l'université de Johns Hopkins, et qui ont créé un institut qui s'appelle le Carnegie Institute, l'Institut Carnegie. Et en fait, eux, ils sont passés le fondateur de cet institut qui s'appelait Franklin Moll était un des étudiants de His, dont j'ai parlé précédemment. Et lui, il est passé à l'échelle semi-industrielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris un embryon, deux embryons. Il a organisé aux États-Unis une collecte en envoyant des personnes de son laboratoire récupérer des embryons à droite à gauche chez des médecins. Il a collecté des milliers d'embryons humains, donc pas quelques dizaines, mais vraiment des milliers, qu'il a récupéré, et ça a commencé donc au début du XXe siècle, et ça a duré pendant pratiquement 40 ans, les travaux de cet institut-là. Ils ont collecté tous ces embryons, ils les ont mis, encore une fois, dans de la paraffine, et puis ils les ont coupés, et là vous voyez, je sais pas si c'est à droite pour vous ou à gauche, vous avez une coupe d'un des embryons qu'avait fait His, dans lequel, c'est une coupe qui passe du haut en bas de l'embryon, et puis on peut commencer à voir des choses comme le cœur, le foie, et puis les différentes structures. Et ce qu'ils ont fait donc, pendant toutes ces années, ça a été, encore une fois, de comparer les embryons, de regarder les différents organes, et à partir de ces coupes-là, de les dessiner et d'essayer de comprendre comment les différents tissus de l'embryon se mettaient en place pendant le développement. Donc ils ont mis des années et des années à faire ça, parce que pour obtenir des embryons de 2 semaines ou 3 semaines, c'est vraiment très rare. Donc ça, pour faire la collection complète, entre guillemets, ça a vraiment été très très long. Donc cette collection, elle a failli disparaître. Il y a un chercheur suisse, dont j'ai mis le nom, Ronan O'Reilly, qui a travaillé à cet institut-là, qui l'a un peu sauvé. Il l'a amené d'abord en Californie, puis maintenant, il y a encore des prélèvements et des lames de cet institut qui existent à Washington. Mais pour l'essentiel, elle a été détruite.
Donc on peut considérer ça comme le premier atlas contribué à la cartographie d'embryons.
C'est non seulement le premier atlas, mais c'est également le dernier atlas. Donc on va voir, c'est-à-dire que là, c'est un peu une idée que je vais développer après. C'est que ce qu'on connaît actuellement de l'embryologie humaine, du développement des organes, etc., c'est basé sur des travaux qui ont été faits par ces laboratoires-là. Et ça s'est arrêté, ces recherches, au niveau des années 50. Alors il y a encore des gens qui s'intéressent à l'embryon, au fœtus, etc., mais ils utilisent les mêmes techniques qu'à l'époque. Et vous allez voir, on n'a pas du tout une résolution, une précision de l'ordre d'une cellule. Et surtout, on ne peut pas identifier précisément les cellules par des critères autres que sa forme ou sa position, éventuellement sa taille.
Ou la couleur,
voilà,
par la coloration.
Quelque chose, elle est plus ou moins violette. Donc, ce n'est pas très, très précis. Je vous montre une coupe d'embryons colorés par ces techniques-là. Vous aurez beaucoup de mal à reconnaître une cellule particulière. Alors, ce qu'ils ont fait comme approche, ils prenaient toutes ces coupes-là. Et donc, vous prenez un embryon entier, vous le coupez complètement, vous allez avoir des milliers de coupes ou des centaines de coupes. Chacune, ils vont les dessiner Et après, ils vont faire un moule en cire, un moulage en cire de chacune de ces coupes. Donc, en gros, ils vont couler des plaques. Et au lieu d'avoir un truc qui va faire un embryon qui va faire un centimètre, ils vont faire une plaque qui va faire un mètre pour chaque. Donc, on passe de un centimètre à un mètre. Et là, ils vont repliquer sur cette plaque le contour des organes, le contour des cellules, les cavités, le cœur. Et puis après, ils vont superposer l'ensemble de ces plaques de cire, tout fondre et fusionner et avoir des images d'embryons comme ça. Donc, vous avez des musées, vous pouvez voir des spécimens qui vont faire un mètre de haut, dans lesquels on peut déplacer les différentes coupes. Et puis, on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, encore une fois, ça, c'était à la fois pour que le grand public comprenne, mais aussi pour que les médecins, les étudiants en médecine, comprennent comment l'embryon humain se développe. Donc, il y a pas mal de musées dans le monde qui ont des spécimens comme ça, d'embryons, qui ont été générés à partir de ces moulages en cire, et puis après colorisés pour donner ces images. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est à peu près ce qu'on connaît actuellement. Alors, ce qu'a fait donc, cet Institut Carnegie, ça a été donc, de réussir à établir ce qu'on appelle des stades de développement. Et en fait, ces stades de développement, ça permet qu'on prend un embryon, on récupère un embryon, donc dans les 8 premières, je vais reparler de ça après, dans les 8 premières semaines de gestation, simplement sur la base de l'observation de cet embryon, de regarder certains critères morphologiques, la taille, les doigts, la position, on peut savoir exactement à quel moment il a été conçu, avec une précision de 2 jours. Hein, donc entre 1 et 2 jours. Donc dans les 8 premières semaines de développement, c'est très très constant entre tous les embryons. Donc on est capable vraiment, vous récupérez un embryon, on peut vous dire celui-là, il est entre 45 et 47 jours. Donc on est vraiment très précis. Et ça, parce qu'il y a vraiment des critères morphologiques. Et aussi, ça veut dire que le développement initial de chaque être humain est vraiment très, très constant. Il y a des choses qui se passent dans tous les individus au même moment. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, donc eux, ils se sont restreints aux 8 premières semaines de la gestation, hein, 56 jours de développement, parce qu'après, en fait, ces critères-là ne sont plus valables. Il y a des embryons, encore une fois, qui vont être plus gros. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont être plus vieux. Et puis le sexe, par exemple, va commencer à déterminer. Avant 8 semaines, vous êtes incapable de dire si c'est un garçon ou une fille, si c'est un mâle ou une femelle. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun critère morphologique ou même biochimique, cellulaire, qui différencie un embryon mâle ou femelle. Alors, il y en a encore à 2 chromosomes X, un X et un Y. Donc ça, c'est quand même une différence qui est constante, qui est déjà là depuis le départ. Mais d'un point de vue morphologique, cellulaire, il n'y a pas de différence avant 8 semaines. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc en recherche, on parle de stade de développement embryonnaire pour ces 8 premières semaines. Et après, on parle de développement fœtal pour ce qui est après ces 8 semaines. Donc il y a une distinction entre embryon et fœtus qui est basée sur ces stades de développement qui sont toujours utilisés. Voilà. Donc on connaît bien le développement embryonnaire, ça a vraiment été très étudié de ce point de vue-là, mais on va revoir pas avec une grande précision. Par contre, tout ce qui se passe entre la 8e semaine et l'accouchement, d'un point de vue cellulaire, c'est vraiment a été quasiment pas du tout étudié. Alors, donc encore une fois, d'un point de vue historique, donc je vous dis pendant des années, notamment aux États-Unis, ça ne posait aucun problème de collecter 1000 embryons par an, 1000 fœtus par an, de les récupérer dans tout le pays pour la recherche, aucun problème. Au Japon, ils ont fait le même genre de collection. Ils ont collecté des dizaines de milliers d'embryons pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas 2-3, encore une fois, c'est des dizaines de milliers qui ont été mis dans des collections qui sont à Kyoto, notamment. Et puis, quand le grand public, alors, au début, a trouvé ça intéressant, puis après, il y a eu des aspects qui sont rentrés en jeu, qui étaient éthiques, dont on peut parler par la suite, ou religieux, qui font que la vision de la recherche sur l'embryon et de l'embryon a commencé à changer dans le grand public. Et il y a eu, en 65, une personne qui s'appelle Nilsson, qui est un photographe, qui a fait, avec une image, la couverture de Life magazine aux États-Unis, en montrant, voilà, il y avait cette espèce de dessin d'embryon. Et il y avait dans cette, il a prétendu qu'il avait, il y a plusieurs photos qui étaient mises dans ce journal, des photos assez impressionnantes. On voyait l'embryon dans le sac amniotique, et il n'a pas vraiment expliqué clairement. Il a dit qu'il avait pris ça dans des embryons et des fœtus qui étaient vivants, qui faisaient passer une petite sonde, et qu'il arrivait à voir les fœtus. En fait, il l'a fait pour un, et tous les autres étaient des embryons ou des fœtus qui étaient morts, soit issus d'avortements, soit autres, qu'il avait pris en photo dans un état intact, entre guillemets, mais il avait fait un peu croire que sa technique était non-invasive, qu'il pouvait vraiment faire des images comme ça de l'embryon dans le développement. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas possible globalement de le faire, et éthiquement, vous n'avez pas envie de faire un trou dans l'embryon ou dans l'amniose pour aller voir comment il se développe en mettant une petite caméra, sauf s'il y a des raisons médicales. Mais ces images-là, ça a vraiment un peu révolutionné. Il a été invité à la télévision partout, il a fait des livres. Et c'était tellement populaire que cette image qu'on voit de cet embryon là, qu'ils ont appelé Spaceman, l'homme de l'espace, avec des petits points partout, ça a même été envoyé sur la sonde Voyager dans les années 70 comme une des images représentant l'humanité ou comment on est. Donc c'est vraiment, ça a révolutionné un peu vraiment cette façon pour le grand public de voir ce qu'était que l'embryon humain. Alors ça a été aussi plus ou moins le coup d'arrêt de la recherche sur l'embryon aux États-Unis. Donc là, ça devenait trop beau, trop esthétique, et éthiquement, les gens ont commencé à se poser pas mal de questions. Et donc la recherche sur l'embryon dans pas mal de pays s'est globalement arrêtée, alors pas partout, hein, mais a vraiment commencé à diminuer. Et puis techniquement, on ne pouvait pas aller plus loin que ce qui avait été fait dans les années 50. Donc, ces microtomes, on les utilise toujours, on fait toujours des coupes plus fines, on peut le faire sur des cerveaux congelés ou des embryons congelés, ou les faire sur de la paraffine, mais il n'y avait pas eu vraiment d'évolution technologique, donc on ne pouvait pas faire mieux que ce qui avait été fait dans les années 40. Donc pourquoi continuer et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? Alors, donc ça, ce genre d'image, vous en avez, beaucoup d'entre vous, vu, c'est ce qu'a apporté l'imagerie par ultrasons. Donc comment on peut voir pendant la grossesse le développement d'un embryon ou d'un fœtus, sachant qu'en fait généralement, voilà, la première échographie va être faite généralement au moment du premier, après le premier trimestre de la gestation. Donc maintenant on peut faire des images, comme je vous montrais, on peut reconstituer ces coupes là qui sont faites par ultrason et générer ces images 3D d'un embryon avec sa main et voir un peu comment il se développe. Voilà, donc on peut avoir des images qui sont assez précises. Alors, précises, mais vous avez dû entendre parler il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, un couple qui fait un procès à un gynécologue parce qu'il n'a pas vu que l'enfant il avait qu'un bras et pas deux bras. Donc, l'échographie, c'est précis, mais parfois, on ne sait pas si l'embryon il a un bras ou deux bras. Donc, la précision, elle est quand même relativement limitée. Donc, ces techniques-là marchent bien, mais on n'a pas actuellement une résolution qui vous permet de voir précisément ce qui se passe dans l'embryon. Comme on le voit, on peut voir des cavités. Vous pouvez voir, le cerveau, par exemple, est creux dans le développement. Il y a un trou dans le cerveau. On appelle ça un tube neural. Ça va de l'avant à l'arrière, c'est creux. On peut voir ces cavités. On peut voir si l'enfant a des cavités de taille anormale. On peut voir si le cœur est anormal, parce qu'en fait, il y a des cavités dans le cœur. Donc, l'échographie, ça va vous donner l'enveloppe du corps, et puis les trous à l'intérieur, les cavités. Donc on peut voir comme ça les gros organes, on peut voir si un organe manque, mais c'est la précision qu'on a actuellement. Aller plus loin que ça, c'est compliqué. Il faudra encore imaginer qu'on va faire quelque chose d'un peu plus invasif. Je ne pense pas qu'une femme enceinte aura envie qu'on fasse un trou dans son ventre pour aller mettre une caméra qui va aller observer le fœtus, même une amniosynthèse peut déclencher une fausse couche. Donc voilà, donc on est limité dans le cas de l'observation comme ça en ultrason, même si les techniques s'améliorent beaucoup, on a des techniques d'ultrason maintenant qui sont en cours de développement, très rapides, très précises, on n'arrivera jamais à avoir une précision cellulaire. Donc on ne sera pas à l'abri, on va voir que la forme est normale, mais qu'il y a quand même un défaut. Donc on pourra en parler après, il y a d'autres techniques, par exemple le développement cérébral qui se développe, pour pouvoir imaginer le développement des connexions dans un embryon in utero, dans la mère en gestation. On arrive maintenant à faire un peu des choses assez précises. Voilà. Donc là, maintenant, je vais en venir à ce que nous, on fait. Donc, je vous ai dit, moi, je ne travaille pas vraiment sur le développement embryonnaire initialement. On s'intéresse au développement des connexions dans le cerveau. Comment vos neurones se trouvent connectés? Comment les neurones de votre œil vont aller projeter dans le cerveau et puis transmettre une information visuelle? Et quelles sont les anomalies pendant le développement qui vont bloquer le développement de ces connexions? Et nous, on étudie principalement la souris. Et on a des modèles de souris dans lesquels on va modifier des gènes qui sont, par exemple, mutés dans des patients qui ont des pathologies. Et on va voir quelles sont les conséquences sur le développement du cerveau. Et donc là, il faut imaginer, vous avez dans le cerveau des neurones qui sont dans votre cortex cérébral qui vont projeter jusqu'à la fin de votre moelle épinière. Donc si vous voulez devoir étudier ces connexions-là dans un cerveau, vous allez devoir prendre la souris et puis le cerveau, et puis le couper en coupes depuis le cortex cérébral jusqu'à la fin de la moelle épinière, donc à peu près 2000 coupes de cerveau. Donc ça va vous prendre à peu près une semaine. Puis essayer de retracer les connexions depuis le cortex à la moelle épinière, ce qui va vous prendre encore 2 mois. Donc tout ça, c'est vraiment, ça limite un peu, c'est vraiment un problème technique qui fait que c'est un petit peu compliqué. Donc nous, on s'est intéressé à des techniques qui permettent de ne pas faire ces coupes. Donc on n'a pas besoin de faire ces coupes. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé des techniques, développé des approches qui permettent de rendre les tissus biologiques transparents. Alors, pourquoi on n'est pas transparent ? Donc, dans vos cellules, on n'est pas transparent parce que la lumière est diffractée quand elle rentre dans votre corps, parce que vous n'êtes pas homogène. Vous avez plusieurs types de molécules dans le corps. Vous avez dans vos cellules des lipides, hein, vous avez des protéines, et vous avez beaucoup d'eau. Et chacune de ces molécules-là, alors ça c'est pour simplifier, vous avez de l'ADN également, mais ça c'est assez mineur en composants, puis vous avez, voilà, c'est principalement ces molécules-là. Chaque cellule contient ces différentes molécules. Et chacune, en fait, a ce qu'on appelle un indice de réfraction de la lumière différent. C'est-à-dire que quand la lumière arrive dessus, elle va être diffractée. Et si un tissu n'est pas homogène, la lumière qui arrive va être diffractée par une molécule dans un sens, puis par une autre molécule dans un autre sens, etc. Et petit à petit, quand la lumière pénètre dans le tissu, le fait que cette lumière est diffractée progressivement fait qu'il n'y a pas assez de lumière pour aller en profondeur. Donc vous pouvez illuminer la surface, mais très rapidement, la lumière, l'intensité, à cause de cette diffraction-là, la lumière va être complètement éteinte et vous n'arrivez pas à pénétrer dans la profondeur. Alors, comment on peut pallier à ce problème-là ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on faisait des coupes, et quand on fait des coupes fines, là, du coup, 10 microns, 20 microns, la lumière pénètre au travers. Je prends un microscope et je peux voir ce qu'il y a dans ma coupe de 10 microns. Mais là, je ne veux pas toucher un cerveau de souris, c'est 1 cm d'épaisseur. Comment je peux imaginer un cerveau de souris d'un centimètre d'épaisseur ? Et donc, ce qu'on a mis au point comme technique, c'est une technique qui va enlever l'eau. On va déshydrater les tissus. Donc, on le met dans l'alcool ou des produits équivalents, et vous enlevez l'eau. Déjà, 70 à 80% de ce qu'il y a dans les cellules est parti. Et après, on utilise des solvants pour enlever les lipides dans les membranes. Donc, en gros, on trempe le cerveau. On voit là un exemple d'un cerveau frais, rose. Comme il y a du sang, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau oxygénée, on va le rendre blanc. On le déshydrate, donc il passe de rose à blanc. Et après, on va mettre ces solvants qui vont enlever les lipides. Donc, on n'aura plus que des protéines. Et ces protéines, en fait, c'est assez intéressant. Il y en a tellement qu'elles sont à la surface de vos cellules. Elles forment un squelette qui donne la forme de la cellule. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez enlever tout ce qu'il y a et vous allez avoir un fantôme qui reste. C'est Halloween, donc ça tombe bien. Vous allez avoir un fantôme qui reste qui va être à quoi ressemblait cette cellule. Toutes les protéines qui vont être collées entre elles vont vous donner un peu la surface, le tour de la cellule. Et donc, ce qu'on fait à la fin, une fois qu'on a plus ces protéines, on trempe l'échantillon dans un dernier solvant qui a le même indice de réfraction que les protéines. Et du coup, c'est assez magique, le tissu devient transparent comme on le voit à droite. Et ça, ça prend quelques heures. Donc, en gros, en quelques heures, on peut faire passer un tissu biologique de opaque à transparent, optiquement transparent. C'est-à-dire que maintenant, si je prends un laser ou une lumière, je la mets à travers ce tissu-là, le laser, il va le traverser sans aucun problème. La lumière n'est plus diffractée. OK ? Donc ça, si les tissus sont gros, vous attendez plus longtemps, vous déshydratez plus longtemps, vous laissez plus longtemps pour enlever les lipides, mais là, vous me donnez un cochon, une vache, je peux le rendre transparent si j'ai une piscine avec les solvants dedans. Ce n'est pas un problème, c'est une question d'attente, on peut rendre n'importe quoi, de n'importe quelle taille, transparent actuellement. Hein, voilà. Alors, donc ça, c'est une technique qui marche très bien, qu'on peut appliquer à n'importe quelle espèce. Je vais pas en montrer peut-être à la fin sur le stand de l'INSERM, j'ai montré un exemple d'un embryon de serpent, de différentes choses qui sont assez intéressantes. Et après, ce qui a été pas mal aussi pour nous et qui a vraiment révolutionné et nous a rendu possible le projet, ça a été la réinvention d'un microscope particulier. Généralement, vous avez dû aller, quand vous êtes allé au collège, vous avez dû regarder des lames de microscope avec des microscopes. La lumière, que vous mettiez votre lame de verre, la lumière venait par en dessous, comme ça. Vous regardiez votre coupe dans le microscope, et puis l'échantillon était éclairé par en dessous. Donc la lumière traverse tout l'échantillon dans ce cas-là, hein, vers le haut. Et encore une fois, il y a beaucoup de diffraction, et vous allez illuminer plein de plans dans l'échantillon. Donc ça, c'est flou, vous perdez la lumière, c'est pas super. Il y a des Allemands qui, encore une fois, au début du XXe siècle, ont inventé ce qu'on appelle un microscope à feuilles de lumière. Eux, ils l'avaient inventé, pas pour de la biologie, c'était pour étudier des colloïdes, des suspensions de particules, et ils ont eu le prix Nobel pour ce microscope-là. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de faire la lumière qui arrive par le haut ou par le bas, ils ont créé un microscope qui permet de faire une feuille de lumière. Donc vous allez avoir, votre échantillon il est illuminé latéralement par une feuille de lumière. Alors, optiquement, avec les ampoules classiques, ce n'était pas très très fin, mais il y a un chercheur allemand qui, il y a à peu près 10 ans, a combiné ça avec une approche avec des lasers. Donc maintenant, on peut faire avec des lasers, dans un microscope, une feuille de lumière qui va faire 2 microns à 4 microns d'épaisseur. Et donc, vous allez la faire passer à travers l'échantillon. Et l'avantage de cette technique, donc dans le microscope qu'on utilise, vous avez un laser qui fait une feuille de lumière d'à peu près donc, 2 micromètres d'épaisseur sur une distance de 3 à 4 cm. Vous avez un objectif au-dessus, comme un objectif d'appareil photo un peu plus précis, et puis une caméra sur le dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on met l'échantillon transparent dans la feuille de lumière laser, et puis vous déplacez le laser de 2 microns en 2 microns à travers l'échantillon. Vous allez le scanner, le balayer avec votre feuille laser. Et donc là, on n'a pas de coupe, c'est le laser qui découpe, l'embryon est intact. Comme il est transparent, la lumière passe au travers. Et donc la caméra va prendre une image tous les 2 microns. Donc. Et là, ce qui est pas mal, c'est que c'est très rapide. Vous pouvez scanner 1 cm en 10 minutes. Donc on peut faire un cerveau entier de souris, je peux avoir une image des neurones dans un cerveau de souris en 10 minutes. Donc je vous ai dit avant, si je devais faire les coupes, puis après faire les colorations, puis reconstituer en 3 dimensions, on parle de minimum un mois de travail pour un cerveau. Là, en 10 minutes, j'ai le résultat.
La contrainte en taille ici, c'est l'ordre de combien
La contrainte en taille, c'est ce qu'on appelle la distance de travail de l'objectif. C'est que votre objectif, on va s'approcher pour voir assez précisément, et à un moment, il va buter sur l'échantillon. Donc actuellement, les objectifs actuels, le mieux qu'on puisse avoir, ça va être à peu près 2 cm de distance de travail. C'est-à-dire que si l'objectif est, l'échantillon est plus épais que 2 cm, je vais buter dessus. Donc pour un embryon humain, on verra après, nous on est capable d'imager un embryon entier jusqu'à 8 semaines à 9 semaines de développement parce que sa taille est compatible avec la distance de travail. Donc après, on s'est limité sur la taille en largeur de l'échantillon, où là aussi, on ne peut pas imager quelque chose de 10 cm. Donc la vache transparente, elle sera transparente, mais je ne pourrai pas l'imager malheureusement. Il faudra que je sorte des organes, que je les coupe en cubes, et après que j'essaie de reconstituer le Lego. Donc, mais il y a des travaux sur au moins arriver, ce qu'on pourrait un jour arriver à imager un cerveau humain adulte, ou au moins des grosses tranches, et essayer de, après de les reconstituer en 3 dimensions. Donc ça, maintenant, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus, donc il y a des développements qui font que probablement ça sera possible. On travaille sur des techniques permettant de scanner éventuellement les tranches ou des échantillons. Voilà, donc il y a des moyens de le faire. Donc là, vous avez votre tissu transparent, vous avez votre laser, vous pouvez scanner les images. Alors, après, ce qu'on a fait, je vous ai dit, voilà, les cellules, comment on peut visualiser les cellules? Donc je vous ai dit, dans les cellules, il y a des protéines. Et en fait, les protéines qu'on a dans nos cellules sont différentes en fonction des cellules. Vos neurones vont avoir à leur surface des protéines différentes de vos cellules du foie. Hein ? Ce n'est pas les mêmes. Certaines sont pareilles, mais beaucoup sont différentes. Et en gros, les cellules, alors, une chose dont on pourra parler par la suite, on ne sait pas actuellement combien on a de cellules de type différent dans notre corps. On n'en a aucune idée. On va dire les cellules cardiaques, mais je ne sais pas, personne ne sait actuellement s'il y a ce qu'on appelle des types cellulaires, s'il y en a 10 dans le cœur, 100 dans le cœur, 80 dans le cœur, j'en sais rien. On sait qu'il y a 80 milliards de neurones. On ne sait pas combien de neurones de type différent il y a. Hein, donc ce sont des neurones, mais ils sont à tel et tel endroit et on ne sait pas vraiment combien il y en a. On n'a pas identifié, c'est un gros programme actuellement international, c'est est-ce qu'on peut cartographier l'ensemble des cellules du corps humain ? Arriver à vous dire dans quelques années, dans un humain, il y a tant de milliards de cellules et puis il y en a tant de types différents. Vous avez un peu un zoo, vous allez avoir toutes les différentes cellules. On parle d'atlas cellulaire. On va pouvoir dire, voilà, cette cellule-là, elle exprime telle protéine. Cette cellule à côté, elle est de type différent parce qu'elle exprime des protéines différentes. Donc il y a beaucoup de laboratoires qui commencent à travailler sur ces aspects-là. Essayons déjà maintenant de cartographier l'ensemble des cellules. On va savoir combien il y a de planètes dans la galaxie. On ne sait pas combien on a de cellules dans le corps humain. Donc c'est quand même un peu particulier. Et on ne sait pas combien de types de cellules on a. Donc c'est pour ça que c'est quand même un problème qui est très important. Alors donc ces cellules, elles ont des protéines à la surface différentes. Et ce qu'on fait maintenant, on a des techniques qui permettent tant de visualiser les cellules qui expriment une protéine particulière à sa surface. On utilise ce qu'on appelle des anticorps, donc vous n'avez entendu pas les anticorps, et donc on va immuniser des souris avec une protéine d'intérêt, par exemple une souris ou un autre animal, et on va récupérer un anticorps dirigé contre la protéine qu'on avait injectée à l'animal. Donc si je sais que dans un neurone, il y a une protéine particulière, elle va être injectée à un lapin, par exemple, le lapin qui n'a pas cette protéine-là dans son sang va développer des anticorps. Après, on va récupérer le sérum du lapin qui va contenir ces anticorps. Et si on le met sur des coupes de tissu, l'anticorps va se fixer sur la protéine qui a été reconnue contre laquelle le lapin réagit. Et ces anticorps-là, ils sont couplés à des molécules fluorescentes. Donc en gros, on a des anticorps couplés à des molécules fluorescentes qu'on va mettre sur des coupes généralement. Et là, ça va se fixer sur les cellules qui expriment la protéine d'intérêt. Donc je peux avoir des anticorps comme ça contre des protéines de neurones, des protéines de muscles, des protéines de vaisseaux sanguins, etc., etc. En gros, on essaie de développer des anticorps contre l'ensemble des types cellulaires connus dans l'être humain. Il y a un laboratoire en Suède qui a généré déjà 20 000 anticorps contre des protéines humaines. Donc on est capable globalement, potentiellement, de visualiser chacune des protéines qu'on a dans le corps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos échantillons embryons humains ou cerveau, on les fait incuber dans ces anticorps, quand on veut visualiser un type cellulaire particulier. Après, on les rend transparents, puis on essaie de détecter avec ce laser la fluorescence. Quand le laser va toucher une protéine fluorescente, ça va faire un signal que la caméra va détecter. Voilà. Donc ça, c'est, on peut voir un peu les aspects techniques.
On peut avoir plusieurs composés fluorescents qui nous permettent de détecter plusieurs protéines.
C'est ça, on peut mélanger en même temps, vous allez avoir des exemples après, plusieurs anticorps différents contre plusieurs molécules. La plupart des cellules ne sont pas déterminées par une seule protéine. C'est souvent deux, trois protéines, combinaison de deux, trois protéines qui va vous donner sa signature. Donc il faut, pour être sûr que c'est une cellule de ce type-là, avoir deux, trois anticorps mélangés. Alors, nous, ce qu'on fait, donc les images, vous scannez votre tissu, les images sont envoyées dans un ordinateur, et là, on utilise des logiciels qui vont réassembler en trois dimensions l'ensemble des coupes. Alors, ce qui est pratique, comme on n'a pas fait des vraies coupes, tout est aligné. Il y a des logiciels 3D qui existent, qui sont très bien, mais les images qu'on commence à produire, nous, ça atteint un peu la limite actuellement des logiciels existants. On va faire des acquisitions qui vont faire 100 gigabits de taille, on en combine plusieurs. Les logiciels les plus puissants actuellement, alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informaticiens maintenant qui commencent à s'intéresser à ces problématiques, on est un peu limité dans la capacité de ce que peuvent faire les logiciels de reconstruction 3D pour la biologie. Donc on envoie ces images-là, et puis on va reconstituer l'image en 3D. Alors, comme c'est transparent, vous allez voir un premier embryon après. Si je vous le présente comme ça sans rien, il est transparent, je passe mon laser dedans, vous ne voyez rien. Donc on utilise des petits trucs pour rendre un peu la surface opaque. Comme ça, vous allez voir un peu les bras, la tête. Voilà. Et après, on va passer sur les images exactes. Alors, je pense que j'en ai un juste. C'est encore un exemple avec un cerveau de souris. On le met, comment il est transparent. Voilà, vous voyez, il est un peu rigide à la fin, on le place sur une plateforme. Là, vous avez le laser qui va scanner l'échantillon et nous envoyer ça vers le microscope. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est des coupes, c'est l'ensemble de ces coupes de 2 microns. On est en train de balayer l'échantillon. Là, c'est un embryon humain. On voit les vaisseaux sanguins. Et on est en train de balayer l'échantillon du haut vers le bas. Donc, tout ce qu'on voit qui évolue, c'est vous passez du haut vers le bas. Et on a toutes ces coupes-là. Vous avez d'autres exemples dans le petit stand de l'INSERM, où on peut vraiment voir le scan qu'on fait à travers l'embryon humain. De toutes ces coupes, on voit le cœur, on voit les poumons. Et là, voilà, on va reconstituer ça en trois dimensions. Voilà, donc ça, c'est un des premiers embryons qu'on avait passé, qui a donc 7 semaines. Donc là, je pense que vous voyez les mains, les pieds, il n'y a pas de problème, les yeux, les oreilles. Et là, ce qu'on va commencer à voir, c'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Ce sont tous les nerfs qui vont vers vos muscles et tous les nerfs qui viennent de la peau et qui vont vers le cerveau. Là, tout ce qu'on va colorer, petit à petit, coloriser, ce sont l'ensemble des nerfs qui sont dans la tête. Vous avez 12, ce qu'on appelle paires de nerfs crâniens, qui vont vers la langue, qui vont vers le visage, vers les yeux, qui vont vers l'oreille, qui vont vers le cœur. Et là, on peut les suivre maintenant en trois dimensions, depuis le cerveau vers la surface du visage. Là, c'est un autre embryon. Ce qu'on voit en vert, ce sont encore une fois, tous ce qu'on appelle ces nerfs périphériques. Voilà, donc ça, c'est la tête d'un embryon. On ressemble à ça au départ. Donc, il y a des gros changements au niveau de la morphologie du visage. Là, vous voyez les yeux. En vert, on voit encore ces nerfs qui vont vers la surface du visage. C'est eux qui vont, quand vous touchez le visage, c'est eux qui vont envoyer une information vers le cerveau. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut disséquer virtuellement l'embryon. Donc là, on voit tous les nerfs qui innervent le visage à 8 semaines de développement. Et maintenant, ce qu'on va faire avec l'ordinateur, on va extraire de l'embryon la langue. Donc là, vous voyez les nerfs qui innervent la langue. Donc ce qu'on voit en blanc, ce sont les nerfs sensitifs, ceux qui vont aller de la langue vers le cerveau. Et ce qu'on voit en rose, ce sont les nerfs qu'on appelle moteurs, c'est ceux qui vous font bouger la langue, qui font quand je parle là, c'est eux qui sont actifs pour que ma langue bouge. Parce que j'ai des anticorps qui reconnaissent les nerfs moteurs ou les nerfs sensitifs. Donc là, dans un embryon, je peux marquer l'intégralité de ces nerfs moteurs ou sensitifs. Et sans ces anticorps, on ne pourrait pas le faire. Il n'y a pas d'anticorps qui soit spécifique des nerfs moteurs ou sensitifs. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut visualiser. Alors maintenant, je vais vous montrer des exemples qu'on va décliner de quelques types de tissus et de ce qu'on peut faire. Et puis, on pourra ensuite discuter, puisque de toute façon, on a commencé à cartographier de cette façon-là l'ensemble des cellules. Donc là, la résolution qu'on a, nous, maintenant, c'est moins de 1 micromètre. Et en plus, on est capable d'identifier les cellules. Donc, ce n'est pas une coloration histologique où vous devez savoir, si vous avez 20 ans d'entraînement, que là, c'est une cellule du foie. Moi, j'ai un anticorps qui vous dit c'est une cellule du foie et on peut savoir exactement quel type cellulaire c'est. Donc, dans la main, on a des nerfs qui font bouger les doigts. Vous avez 3 nerfs principaux dans la main qui font bouger les doigts. Vous avez un certain nombre de muscles qu'on va voir après. Et donc ces nerfs, ils sont souvent mixtes. Non seulement ils envoient des informations de toucher vers le cerveau, et puis ils vont aussi aller vers les muscles de la main pour les faire bouger. Donc actuellement, les images, ce qu'on connaît de la main, du développement de la main, c'est basé sur des dissections qui ont été faites comme ça, où on peut voir des nerfs, et un nerf c'est blanc, et les nerfs moteurs et sensitifs, sont, encore une fois, sont mélangés. Donc nous, on a pu étudier comme ça le développement de la main et trouver des choses assez étonnantes. Donc ça, c'est un exemple des images qu'on a dans l'ordinateur. C'est tous les plans optiques. Et puis manuellement, on va suivre les nerfs. Donc on part de la racine de la moelle épinière. Et puis on va suivre jusqu'au bout de la main les différents nerfs. On va voir comment ils se branchent. Donc on va suivre les arborisations. On va les pseudo-coloriser. On va rajouter des couleurs pour les voir mieux. Et puis on va faire un rendu 3D. Donc là, on voit tous les petits trous. Vous voyez l'espèce de point américain. Ce sont les os qui sont noirs. Ils ne sont pas colorés. Il y a moins de bruit de fond. Et puis on a tous les nerfs comme ça dans l'embryon. Et ce que ça va faire, voilà, ça c'est l'image brute, une main. Là, c'est le marquage de ces nerfs. On les a suivis en 3 dimensions. On les a vus, les 3 nerfs différents, le radial, le unaire et le médian. Et maintenant, on peut faire un rendu 3D et puis on peut les séparer. Donc, pour chaque nerf, on peut maintenant les séparer un par un et voir comment ils sont organisés, comment ils se développent en le faisant à différents âges. Donc, maintenant, on est en 3 dimensions. Donc, chaque nerf a pu être isolé. On sait exactement lequel sert. On voit toutes ces branches. On va voir comment ils envahissent la main. Après, j'ai un autre film qui va vous remontrer ça. On s'est rendu compte que de chaque embryon, les nerfs de la main droite et de la main gauche ne sont pas exactement pareils. Alors, ça ressemble. Le tronc principal, c'est comme si vous aviez des arbres où le tronc est le même, mais les branches sont différentes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut suivre virtuellement le développement des différents nerfs sur différents cas, en comparant les différents cas. Là, l'échelle est la même. Ce qui change, c'est le temps. Là, on a 8 semaines. Après, on va passer à 9 semaines. Vous allez voir que la main grandit petit à petit. Et là, on peut voir comment les différents nerfs, en reconstituant, en faisant une série comme ça, on peut voir comment les différents nerfs vont innerver les différents organes dans l'embryon. Ce qu'on voit se remplir maintenant, c'est la surface de la main qui est innervée par ces nerfs. Et on va voir que voilà, dès ce stade-là, 11 semaines de gestation, la surface de la main est déjà innervée de la même façon que chez un adulte. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir là dans un pied, c'est les nerfs sensitifs en vert et puis les nerfs moteurs en rouge. On est vraiment capable de voir les deux types de nerfs et de les suivre depuis la moelle épinière jusqu'à l'extrémité des membres. Alors nous, un des objectifs qu'on a maintenant, c'est de cartographier le développement de la totalité des nerfs de l'embryon à différents stades du développement. Alors, c'est un projet qui va nous prendre pas mal de temps, mais techniquement, on est capable de le faire. C'est une question maintenant de temps et de personnes et de financement pour réussir à le faire, mais on est capable d'écrire comme ça le développement de l'ensemble des nerfs. Alors, ça, celui-là, je vais le passer. Je vous montrerai l'autre d'après. C'est ce que vous avez dit pour les nerfs. Voilà. Ici, vous avez une main gauche et à côté, une main droite. Et vous allez regarder, vous pouvez faire le jeu des 7 erreurs. Vous allez voir, ça se ressemble, mais il n'y a pas exactement le nombre de petites branches dans ces arbres-là. Et là, c'est le même embryon. Il a le même âge, la main droite, la main gauche, elles sont nées au même moment. Mais, en fait, il y a un côté aléatoire dans la façon dont les nerfs se développent. Les chirurgiens qui font la chirurgie de la main, ben, ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont trouver quand ils ouvrent la main. C'est connu, ils vont voir des nerfs. Donc, globalement, les 3 nerfs, ils sont toujours présents. Mais il y a des connexions qui ne seront pas toujours les mêmes en fonction des patients et pas toujours les mêmes dans la main droite et la main gauche. Donc, quand vous avez une chirurgie de la main, c'est toujours un peu la surprise de ce que vous allez trouver à l'intérieur, puisque chaque personne est différente. Et en plus, même votre main droite et vos mains gauches sont différentes. Voilà. Donc, il y a quand même des choses assez particulières. Alors là, c'est un exemple d'un pied. Et tous ces petits points blancs qu'on voit là, ce sont des cellules qui, ce qu'on appelle, sont les cellules de Schwann qui forment la myéline. Les influx nerveux dans vos nerfs vont vite parce que vos nerfs sont entourés par ce qu'on appelle de la myéline qui est produite par des cellules qui fait que la conduction nerveuse est très rapide. Des personnes qui ont de la sclérose en plaques ont des problèmes moteurs, notamment parce que ces cellules-là dégénèrent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cellules-là qui sont trouvées tout le long de vos nerfs naissent au niveau du cerveau et vont se déplacer le long des nerfs dans le développement embryonnaire. Donc tous ces petits points blancs qu'on voit là, ce sont ces petites cellules de Schwann en développement qui vont se balader le long des nerfs depuis la moelle épinière jusqu'à l'extrémité du cerveau.
Et donc le fait de faire ces observations au cours du développement embryonnaire, est-ce que ça nous donne Ensuite, des informations qui sont utiles pour soit décrypter l'évolution d'une maladie ou même l'origine de la maladie ou trouver des approches pour aller contre le développement d'une maladie particulière.
Pour l'instant, parce que déjà c'est un gros travail, nous on se contente de travailler principalement sur l'embryon ou le fœtus normal, avec bien sûr plus tard, à terme, ça va déjà nous prendre pas mal de temps, l'idée de voir un peu ce qui se passe dans une pathologie. Ici, on peut avoir la séquence de développement exacte, de dire, dans un individu normal, vous avez tant de cellules de Schwann à tel moment, à tel endroit, donc plus tard, dans des modèles où on aura des embryons éventuellement avec des pathologies diagnostiquées ou des maladies génétiques, on a commencé à le faire, on pourra dire exactement à quel moment l'anomalie s'est déclarée. Donc on pourra dire, le problème c'est qu'il y a moins de cellules de Schwann qui ont migré, qu'elles n'ont pas migré correctement, pas au bon endroit, pas le long des bons nerfs, etc. Donc ça on pourra le faire une fois qu'on a fait la cartographie. Mais oui, c'est un peu le but, on a commencé à faire pour certaines pathologies, de voir à quel moment le défaut s'est produit dans tel et tel organe. Donc là, vous allez voir, c'est un autre exemple de choses qu'on peut voir. Donc, vous allez comprendre petit à petit ce que je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est la langue d'un embryon. Et ce qu'on voit là, c'est les papilles gustatives. Et tous les petits points blancs qu'on va voir partout, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules souches qui vont donner ces papilles gustatives. Donc on est capable comme ça de voir tous les noyaux, chacune cellule individuellement, de compter exactement le nombre de cellules qui vont se développer pour former ces papilles gustatives dans la langue. Et donc d'être très très précis sur comment ces cellules divisent, combien il y en a, et après, effectivement, dans des cas éventuellement pathologiques, dire voilà, il y a eu un problème à tel moment, les cellules ne sont pas bien divisées, il n'y avait pas le bon nombre, et c'est ça qui explique éventuellement que la personne ne soit pas capable d'avoir, de goûter. Voilà. Donc là, un autre exemple avec des muscles. Donc là, c'est un pied, je pense que vous aurez reconnu. Ce qu'on voit là, ce qu'on appelle les précurseurs des muscles, et puis tous les zones noires, ce sont les os. Et après, vous allez voir, on peut faire un truc, on peut transformer ces régions noires en blanc, donc on peut voir les os en 3D. Donc là, on voit les nerfs moteurs, on voit les précurseurs des os, ici avec des marqueurs. Donc tous ces petits points, encore une fois, ce sont toutes les cellules qui vont donner naissance à vos muscles. Hein ? Et puis en rouge, ce sont les nerfs qui vont aller sur ces cellules musculaires. Donc, vous allez voir un exemple après avec une main. Voilà, voilà la main. Là, on voit maintenant tous les muscles différenciés dans la main. Donc, on voit le squelette. Ça, c'est encore une fois, on ne l'a pas marqué, simplement un négatif qu'on fait à partir de l'image 3D. On peut comme ça cartographier le développement de tous les muscles. Et donc, ce qu'on a trouvé, par exemple, c'est que chez l'embryon humain, il y a plus de muscles que chez l'adulte. On a un moment dans le développement, plus de muscles, et certains muscles vont disparaître. Et cette hétérogénéité qu'on a vue pour les nerfs entre la main droite et la main gauche, ben, on le voit aussi pour les muscles. On est symétrique, mais globalement, on n'est pas toujours symétrique. Donc là, on voit un embryon à un stade un peu plus gros. Là, on voit l'ensemble des muscles de cet embryon. Et donc, on est en train de cartographier l'ensemble du développement musculaire. Encore une fois, notamment pour les muscles du visage, il n'y a rien eu comme travail fait depuis 1960 sur le développement des muscles du visage. Et les informations qui sont disponibles dans les livres d'embryologie pour les médecins, elles sont globalement fausses. Elles donnent une image où on voit qu'on est développé de 2 ou 3 semaines d'avance par rapport à ce qui a été décrit dans ces livres d'embryologie. Donc là, on voit tous les nerfs et on peut isoler maintenant, encore une fois, avec l'ordinateur, on peut prendre chaque muscle dans l'embryon. Et là, par exemple, ce qu'on va voir, ce sont les muscles qui font bouger les yeux. Vous avez 6 muscles qui font bouger vos yeux, vers le haut, vers le bas, latéralement. Et maintenant, on peut déjà les voir en place, on peut voir les nerfs qui vont aller sur ces muscles. Donc on peut vraiment faire ce travail-là en cours de disséquer l'ensemble des muscles. Là, vous allez voir, maintenant, on peut faire, là, c'est presque en temps réel, on est capable, on a utilisé encore une fois, un truc du logiciel qui nous permet de visualiser les os sans coloration. Et là, c'est globalement, quand on fait sur ordinateur, c'est dans le même temps à peu près que là. Vous voyez maintenant apparaître le squelette de l'embryon. Et donc, on peut comme ça, sans marqueur, voir le squelette, voir les nerfs qui vont dessus. On peut rajouter les muscles, on peut rajouter la peau. Et donc, on est vraiment capable de décrire tout le développement de n'importe quel organe. À partir du moment où vous avez un anticorps qui est spécifique d'une cellule, même s'il y a 1000 cellules ou 2000 ou 10 000 cellules différentes dans l'embryon, je serai capable, même s'il n'y en a que 3 dans l'embryon, je serai capable de la localiser, de savoir où elle était, comment elle s'est déplacée et à quel moment elle est née.
Donc on a quelques minutes,
voilà.
Peut-être.
Donc, de toute façon, là c'est globalement fini. C'est un autre film, là c'est un poumon. Voilà, c'est pour montrer un autre exemple du développement d'un poumon et ce à quoi ça ressemble, un peu à du corail. Et il faut imaginer que votre poumon il vient de l'ésophage, il y a 2 petites vésicules qui se forment et puis après vont se brancher, s'arboriser de plus en plus, comme un corail quand il pousse. Et là, ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on est en train de décrire comment le poumon se développe, comment ces différentes branches se forment. Voilà. Donc, je pense que c'était de toute façon ma dernière. Voilà, celle-là est impressionnante. Ce sont les vaisseaux dans l'embryon. On ressent vraiment une éponge au départ. Vous avez l'embryon est rempli de ces cellules vasculaires. On ne savait pas du tout comment les vaisseaux se développaient chez l'embryon humain. Ça n'avait jamais été étudié. C'était connu chez la souris et chez le poulet. Et là, avec des anticorps qui marquent les cellules qu'on appelle endothéliales dans les vaisseaux, on est capable de décrire complètement le développement de l'intégralité des vaisseaux dans un embryon humain et de comprendre comment ces vaisseaux se mettent en place. Voilà. Donc je pense que je peux m'arrêter là, et puis comme ça, on peut discuter.
Oui, voilà. Donc, on va avoir quelques minutes pour les questions. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main, un micro vous sera amené. Je vais commencer par une première question. Donc, l'INSERM, vous avez participé à la rédaction d'un appel à projet pour justement la mise en place d'un atlas de l'embryon. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots rapidement, le temps
Je vous ai parlé un petit peu rapidement de dire qu'on ne savait pas combien il y a de cellules dans une personne adulte, mais bien sûr, on ne sait pas non plus combien il y a de cellules et combien de cellules différentes dans un embryon. Et il y a beaucoup de laboratoires en France qui travaillent sur la recherche sur l'embryon humain, mais rien n'était coordonné. C'est que chacun travaille un peu dans son coin. Il n'y a pas eu un effort d'essayer de rationaliser cette recherche. Et en plus, ça devient... nous, on fait de l'imagerie optique, mais il y a des gens qui travaillent sur des approches pour identifier les différents types cellulaires. Il y a des gens qui font de la biophysique. Quelles sont les forces en jeu dans un embryon quand il se développe, quand les différents organes se mettent en place. Et donc, pour avoir une vue globale de comment un embryon se développe, quelle que soit l'espèce, il faut que vous mettiez ensemble des gens qui travaillent, qui abordent le problème de différents angles. Et donc, ce que l'INSERM essaye de mettre en place, c'est un programme qui va permettre aux laboratoires français de travailler ensemble pour que ça soit plus efficace, coordonné, et qu'on ait des informations plus intéressantes, et aussi dans un contexte français, mais également à l'international. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là, ici. Gardez la main levée, peut-être, pour que le micro vous soit amené.
Vous nous avez beaucoup présenté, du coup, les techniques que vous avez utilisées pour faire ces superbes images. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer un peu quelles découvertes vous en avez tirées, quelles conséquences ça a eu pour vos recherches en neurosciences, en développement neurologique ?
Donc, nous, je vous dis, ce projet-là, il faut quand même avoir en tête, on l'a commencé en 2015. Donc, et dans mon équipe, il y avait une personne qui travaillait sur ce projet. Donc c'était vraiment un projet on ne travaillait pas là-dessus initialement. Donc, on a une phase où on a résolu tous les aspects techniques. Là, en mettant en place cet aspect de réseau INSERM, on va résoudre d'autres aspects qui sont des problèmes de... Une personne pour une équipe va générer par an, pour ce projet-là, 25 téra d'images. Comment on les stocke ? Il faut qu'on les duplique. Donc, on a passé un an, là, à gérer des problèmes techniques de ce type-là. Donc, on est un peu au départ. Donc, nous, les choses, même simplement, voilà, de certains aspects qu'on a vus, c'est sur ce développement des nerfs, par exemple. Le fait de pouvoir voir quand les nerfs moteurs ou sensitifs atteignent les membres, les doigts ou les différents organes, ce n'était pas connu. C'est-à-dire qu'on ne savait pas... on ne voyait, encore une fois, que... Quand vous faites une dissection sur un embryon d'un nerf, c'est tellement petit que vous allez voir les ramifications principales, mais encore une fois, le tronc de l'arbre, mais pas les branches. Donc, en gros, tout ce qui avait été fait était complètement sous-estimé sur l'âge de développement. Donc là, maintenant, on est beaucoup plus précis. On peut décrire le développement des nerfs, on a commencé à le faire, de chacun des doigts. On voit exactement comment la plupart de nos doigts sont innervés par plusieurs nerfs, et on ne savait pas comment ça se mettait en place, quelle était la séquence de développement. Nous, on la connaît maintenant. On a vu ce côté hétérogénéité droite-gauche, qui n'était pas non plus forcément attendu. On pourrait se dire, on est symétrique, et y a vraiment ces muscles qui disparaissent, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas non plus. Donc on commence à avoir des informations sur... des données de ce type-là, on a vu des choses intéressantes sur, je vous ai dit, l'embryon humain, il n'est pas différent entre mâle et femelle jusqu'à 8 semaines. Et puis après, vous regardez une semaine plus tard, je peux vous dire tout de suite, ça c'est un mâle ou une femelle sur la base de certaines structures qui ont dégénéré chez le mâle ou dégénéré chez la femelle. Mais là, on a vu des choses intéressantes, par exemple, sur la vascularisation de ce qui va dégénérer. Il y a des vaisseaux sanguins qui sont présents chez le mâle et pas chez la femelle. Et on se demande maintenant... est-ce que ça dégénère parce que c'est pas vascularisé ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Donc il y a comme ça des choses qui n'étaient pas connues sur les aspects remodelage des organes pendant le développement qui commencent vraiment à être évidents avec le type d'approche qu'on a. Mais c'est vrai qu'il y a un travail pour l'instant énorme derrière encore d'analyse des données. Maintenant on est deux, enfin il y a deux personnes de mon équipe à travailler là-dessus. Et là on espère grâce à INSERM, à d'autres financements, qu'on sera peut-être 10 ou 15. Là on y travaille pour 40 personnes, mais voilà, il faut juste pouvoir analyser tout en détail. Mais on va progressivement avoir des informations de plus en plus intéressantes.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Là, juste devant.
On a vu tout à l'heure qu'il y avait une différence de développement des nerfs dès le stade embryonnaire dans la main gauche et la main droite.
Ouais.
Est-ce que ça influe sur le fait d'être gaucher ou droitier ?
Alors, j'en sais rien parce que l'embryon en question, je ne peux pas savoir s'il aurait été gaucher ou droitier plus tard. Mais c'est une question intéressante. À un moment, on avait plusieurs embryons du même âge, je me suis dit, je pense avoir observé une différence systématique entre ma droite et ma gauche. Je lui ai dit, on va faire un test, vous me donnez un embryon, une main, vous ne me dites pas c'est à droite, la gauche, et je vais vous dire la forme des nerfs si c'est l'un ou l'autre. Je me suis complètement trompé, donc ça, ce n'était pas aussi simple que ça. Après, on le voit aussi au niveau des muscles maintenant, donc on se demande, on creuse ça un petit peu plus, est-ce que quand même, dans la façon dont la main va être structurée, est-ce qu'on voit toujours cette différence-là quand même, c'est toujours. Droite-gauche, c'est jamais une image en miroir. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose derrière qui pourrait être un substrat au fait que vous êtes droitier ou gaucher ? Mais le caractère droitier-gaucher, c'est très, très, très compliqué. On ne sait vraiment pas d'où ça vient au niveau du cerveau. Ça peut vraiment être au niveau des muscles, des nerfs, au niveau cortical. On ne sait pas du tout. Les souris sont droitières ou gauchères. Hein. 50% des souris sont droitières, 50% des souris sont gauchères. Vous leur présentez des petites boulettes de nourriture, 50% prennent de la main droite ou de la main gauche. J'ai un ami qui a généré un mutant de souris, elles prennent toutes de la main droite. Hein. Donc c'est clairement contrôlé génétiquement. Hein. Donc vous pouvez changer complètement ce biais-là. Mais même en sachant, en ayant identifié un gène qui rend droit ou gauche, enfin complètement droitier, on n'arrive même pas à savoir pourquoi ce gène-là.
Plusieurs composantes qui peuvent être voilà,
c'est vraiment très complexe. Mais c'est évidemment, c'est le genre de question qui nous intéresse de comprendre un petit peu cet aspect-là. Est-ce qu'on peut baser, on pourrait comprendre quelle est la base anatomique du correcteur droitier ou gaucher ?
Très bien. Bon, ben, on va clore cette première table ronde. Merci Alain pour cette présentation. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde qui était passionnante. Merci encore. Merci.